Bonjour et bienvenue à Rendez-vous. Je m'appelle Giselle et je suis dans la classe Capstone.
At Awatuki SHF. Je m'appelle Afrine et je suis dans la classe français 3 and will be your host today. Si vous n'avez pas sa voix, SHF a créé Rendez-vous pour parler à propos de toutes les choses français pour les élèves de Basis Awatuki. Before we get started on this episode, if you haven't already, you can follow SHF to Instagram pour toutes les mises à jour. On today's episode, we'll be talking about la haute couture, or high fashion. We'll take you through where this exclusive practice all started, the high-end brands that are all the rave, and the best and worst fashion trends that have graced us here in the US. It's no coincidence that this episode's release is on Black Friday, so maybe you'll find some inspiration if you're planning on doing some shopping during this season.
To start, haute couture is simply the creation of exclusive custom-fitted clothing, with everything being made by hand from start to finish, and with high-quality fabric. Haute translates to high, and couture directly translates from French as dressmaking or needlework. But to understand why this triumph of costume and fashion developed, we'll have to take a look at its origin à Paris. The history of haute couture begins with its founder, Charles Frederick Worth, an Englishman designer who dominated Parisian fashion in the second half of the 19th century. During this time, the sewing machine was invented, and with the development of new technologies and the emerging industries in Europe, the old art of hand-sewn techniques grew in order to establish a distinct practice amidst all these new changes. Designers such as Charles Worth thrived in cities such as Paris, which became a center for luxury goods like textiles and fashionable dress. It also helps that Worth's lavish designs attracted the attention of Empress Eugenie, who was married to Napoleon III at the time. With her influence and tastes at court being showcased, Worth's name was able to make it in several fashion magazines. His design house, known as the House of Worth, attracted the attention of wealthy women seeking to complete their wardrobe with dresses for la matin, l'après-midi, et la nuit. Bien sûr, Charles Worth wasn't the only couturier à Paris. There were several other establishments offering original clothing for private clients. Most couture houses were composed of two parts, le flou, which was devoted to dressmaking, and le tailleur, which was devoted to the tailoring of suits and coats. The head designer would oversee the general processes in the house, especially taking care to pay attention to the creation of garments in the maison particulière. With the main step involving sketches of original designs or draping and cutting a muslin as a template, the client would then go through a series of fittings to get the most comfortable and form-fitting appearance. Thus, with the ease of transport from railroads and steamships in Europe, it became more common for wealthy women to travel to Paris and shop for these tailor-made clothing and accessories. In 1868, Le Chambre Syndicale de la Haute Couture was established to outline certain specifications for designers who wanted to label themselves a couture house. Some of these specifications insisted that designs had to be made to order for private clients. Then in 1921, l'Association de Protection des Industries Artistiques Saisonnières was created to protect individual haute couture designs from piracy. Haute couture was threatened during the Seconde Guerre mondiale as mass production was popularized and governments were encouraging conservation of materials. But luckily, France's fashion industry, after the war ended, was revived by Christian Dior's New Look collection. Launched in 1947, this collection featured rounded shoulders, a cinched waist, and a full skirt to emphasize the femininity of women's fashion. Maintenant, Dior is a French luxury goods company selling fragrances and accessories worldwide. As such, many couture houses have transformed into high-end brands we still see today.
Now let's get into some of the popular French brands that feature haute couture. Some brands are very common and you can probably recognize them because you've seen or heard of them before. First, we have Coco Chanel. Coco Chanel is a popular French perfume and clothing brand that was founded by Gabrielle Bonneau Coco Chanel, who was a French fashion designer and businesswoman. She is famous for her iconic designs, such as trademark suits and little black dresses, also known for putting emphasis on comfort in her designs. In the 1920s, Chanel took her business of fashion to a new level by launching her first perfume, Chanel No. 5. In the same decade, the legendary Chanel suit was introduced. The suit was designed for women, but it had many of the elements of men's wear, as well as that emphasis of comfort, rather than the limits of women's fashion at the time. The company was shut down due to the international economic depression of the 1930s. However, Coco Chanel came back to the fashion world in the early 50s and had the same triumph as before due to the unique quality of her designs. Since then, Coco Chanel continues to thrive to this day. Next, we have Louis Vuitton, another French company that specializes in a variety of luxury goods, ranging from fancy leather goods to other goods such as shoes, watches, jewelry, accessories, and sunglasses. The company was founded more than 160 years ago by Louis Vuitton Malletier, a French fashion designer and businessman. Vuitton started out as a trunk maker and packer for the Empress of France at the time, Napoleon III's wife. In 1854, Vuitton introduced his revolutionary rectangular canvas trunks. Only round leather trunks existed in the market at the time, so the demand for Louis Vuitton's lightweight trunks increased quickly. He also designed the world's first pick-proof lock. In 1871, after the Franco-Prussian War, Vuitton's workshop was ruined, but he didn't give up. He immediately began rebuilding his company and produced a new line the next year. Louis Vuitton passed away in 1892, but his signature brand still lives on today. The last brand we'll be talking about is Lancôme Paris. Lancôme is an international French company that produces luxury perfumes and cosmetics. It is also part of the L'Oréal products division, which is its parent company that offers luxury skincare and makeup. The brand was founded by Guillaume de Arnault and Armand Petitjean en France in 1932. The name of the brand is said to be inspired by the forest of Lancôme in the heart of France. Lancôme, in 1935, launched its first 5 fragrances and has been in the cosmetics market ever since. The company became acquired by L'Oréal in 1964 and has since then become part of its foire. Il est presque impossible to think of haute couture without imagining popular events such as Paris Fashion Week and models like the Hadid sisters or Kendall Jenner making their way down the catwalk. The modern runway shows came a long way from the original fashion parades in the 1860s. For example, Charles Worth showcased a lot of his early collections at the Longchamp racecourse, and designer Paul staged balls for women to dress up in his collections. Another thing to keep in mind was that more attention was placed on the client rather than reaching out to a wider audience and selling a product like in modern times. As couture houses started to shift towards prêt-à-porter or ready-to-wear clothing, designers began showing their collections more frequently throughout the year. Le Chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode coordinated these shows, which led to the birth of Paris Fashion Week.
Runway shows have taken a turn to the bizarre, and designers have pushed the limits of extravagance and creativity with the showcasing of their collections. Most notably, Karl Lagerfeld, who recently passed in February of last year, and single-handedly reinvented the houses of Chanel and Fendi, collaborating with models like Cindy Crawford and Claudia Schiffer to bring new life into these brands. His set designs ranged from an airport-themed runway in Los Angeles, a casino with celebrities like Kristen Stewart, Lily Collins, and Julianne Moore were employed to fake gamble in the middle of the runway. And my personal favorite, the glass walkway over Rome's Trevi Fountain. Fortunately, with the presence of media and the scope of technology nowadays, these runways are oftentimes live-streamed. Now, the big question remains, est-ce que vous pensez que la haute couture est surfaite? Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a toujours les critiques de la haute couture tout au long des années et pendant les débuts au 19e siècle. Les designs et les motifs sont un peu bizarres quand personne normal les garde bouche bée, mais c'est important de savoir que historiquement ces designs ont créé un tandem avec les problèmes sociaux et culturels et poussent les limites de la mode et l'acceptation du public de nouvelles idées. Je pense que la pratique des maisons couture originales est quelque chose que nous devrions continuer à priser, et il est très similaire à priser le travail d'artiste. La mode est en forme d'expression aussi. Pour les marques hautes de la gamme aujourd'hui, il y avait les problèmes avec les éthiques, avec la production en masse et les pratiques de lab. D'accord, je l'ai parlé maintenant. Le taux de changement de tendance de la mode est incroyable, mais inquiétant aussi. Il y a beaucoup d'entreprises comme Forever 21, H&M et Zara qui produisent les vêtements pas chers ou dépensent des vies des femmes dans les pays pauvres. Par exemple, la plupart des vêtements sont créés en Chine, Bangladesh, Cambodge ou Vietnam, où les employés gagnent pas grand-chose. De plus, la mode rapide crée le risque pour l'environnement, particulièrement pendant qu'il y a 11 ou 15 saisons par année, quand il y avait 4 saisons avant. Étant donné que la mode rapide provoque les consommateurs à acheter les vêtements qui sont trending, ces vêtements vivent dans les armoires pour 3 ou 4 mois seulement, et en général, les personnes en magasin et faisaient des corps pour les nouveaux styles. Mais où vont les vieux vêtements? Alors, la plupart des gens font un don aux endroits comme Goodwill ou la Salvation Army qui est très bon pour l'environnement parce que les autres gens peuvent donner les vêtements en autre vie. Mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème est où vont les vêtements en magasin que personne n'a acheté. Les entreprises brûlent ces produits à arrêter les autres entreprises vendant à un prix réduit. Ils veulent maintenir les perceptions d'exclusivité et si les vêtements qui sont démodés sont vendus à un prix réduit, ils posent les risques pour l'image d'entreprise. Alors, les vêtements qui sont la valeur des milliards de dollars sont brûlés chaque année. Et c'est le secret que Nike, Burberry et H&M ne veulent pas le public à savoir. En 2050, l'industrie de la mode a créé 100 milliards de pièces de vêtements pour 7 milliards de gens. Et même l'endroit comme Goodwill dépense 7 millions de dollars pour jeter les dons en Californie seulement. L'effet de brûlant est détrimental pour l'environnement. Chaque pièce produit les gaz à effet de serre et les fibres synthétiques ont besoin de beaucoup d'années à dégrader. Les colorants peuvent polluer l'eau, les usines utilisent les produits pour l'énergie et le transport des matières est coûteux. Alors, les vues d'ensemble et la mode rapide contribuent au changement climatique et son entreprise doit faire plus de choses à arrêter cette tendance. Bien sûr, il y avait des efforts à réduire les déchets. Par exemple, Levi's a éliminé les plastiques dans sa production. De plus, Zara et H&M a essayé d'utiliser peu de matières naturelles comme les cotons. Maintenant, la prévalence des marques durables a agrandi à la popularité. De thrifting aux magasins caritatifs a grandi aussi. Thrifting est tentant avec les gens, particulièrement les jeunes, parce qu'ils peuvent trouver les vêtements qui sont uniques avec une remise. Un YouTuber qui est très populaire et qui aime thrifting s'appelle Best Dressed ou Ashley. Elle vit à New York et trouve les pièces vintage ou achetant les marques comme Reformation ou Redone qui focalisent sur la durabilité. Pendant que les vêtements qu'elle porte sont très chers, par exemple un jean de Redone peut coûter 150, mais si tu compares le coût d'acheter les jeans chaque année pour 30 dollars, peut-être investissant dans un jean qui coûte 150 est raisonnable. J'ai commencé thrifting depuis 2 ans et à mon avis, je pense qu'il est très amusant à trouver les pièces uniques et cherchant les étagères au magasin comme Goodwill. Il semble qu'on les cherche pour une saison, mais bien sûr, nous parlons à propos de vêtements seulement. J'ai trouvé récemment un site qui s'appelle ThreadUp qui offre une grande sélection d'accessoires et des robes, essentiellement toutes les choses que vous pouvez penser. Alors, souvent, la mode durable et thrifting est une bonne alternative et plus de gens choisissent à faire le thrifting au lieu de faire des courses avec la mode rapide.
Il y avait le plus intéressant des tendances de la mode au fil des années, comme les trop grandes chemises, les gens avec des déchirures, cold shoulder chemises et athleisure. Je classerai ces tendances sur une échelle de 1 à 5. Nous ne pouvons pas oublier à propos des accessoires comme les silly bands ou les rainbow loom bracelets, qui tout le monde sait. Quelqu'un se rappelle les cold shoulder chemises. Il devient une tendance en 2006 ou 2017. Il était très populaire pour les filles et les femmes. Le designer a coupé la pièce de épaule de chemise à créer un regard chic. J'ai aimé cette tendance, alors j'ai donné un score de 4.5. De plus, les vêtements avec des déchirures ou les distressed or ripped clothing qui est populaire encore maintenant. Ces vêtements sont déchirés délibérément pour les gens ou les denims parce qu'il est facile de créer l'effet effiloché. Bien sûr, il y a les chemises et les pulls avec des déchirures avec les bouts à avoir un regard rétro. Pour cette tendance, je crois qu'il est très vif. Alors, j'ai donné un score de 2 parce quelque chose que je n'aime pas vraiment. La prochaine tendance est les trop grands vêtements qui existaient aujourd'hui. Pendant les années 20, oversized or baggy clothing devenait une tendance. Il est très confortable et décontracté. Tous les vêtements ont l'air trop large. J'ai donné cette tendance un 3 parce qu'il est très à l'aise, mais il encourage un regard décontracté et lâche. Finalement, nous regardions les athleisure. C'est un type hybride de vêtements avec les motifs sportifs, mais il est décontracté aussi. Les gens peuvent porter les athleisure pour tous les jours et généralement, les matières sont les nylon ou les polyester où la flexibilité et un regard bien ajusté. Vous pouvez porter cette tendance au lycée, au travail ou à l'épicerie. J'ai donné cette tendance un 4 parce qu'il est laid mais pas trop décontracté.
Alors, merci beaucoup pour écouter à ce épisode. We hope you enjoyed learning about the origins of haute couture and had a fun time going down memory lane with all these past trends, les meilleurs ou les pires. D'accord, we hope to see you at the next rendezvous.